VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du lundi 27 juillet 2020. Eric Manilakidze à la présentation. Voici d'abord les titres. Au Mali, la CEDEAO menace de sanctions les opposants à son plan de sortie de crise. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Henri Konan Bédié, désigné candidat de son parti à la prochaine présidentielle d'octobre, avec 99,7% des voix. Dans l'ouest du Darfour, nous sommes au Soudan. Plus de 60 agriculteurs ont été tués samedi dans une attaque armée. Face à la pandémie de Covid-19, une course contre la montre est engagée pour trouver un vaccin. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a menacé lundi de sanctions ceux qui s'opposeront à son plan de sortie de crise au Mali, qui prévoit le maintien au pouvoir du président Keïta, mais prône la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. Kassim Traoré.
C'est le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, qui a campé le décor en présentant les rapports de la mission des 5 chefs d'État du 23 juillet à Bamako. À la suite du président nigérien, le président ivoirien a pris la parole. Il dira que la crédibilité de la CEDEAO est en jeu dans cette crise. Selon Alassane Dramane Ouattara, ils sont aux côtés du peuple malien, mais pas pour le désordre dans les rues. Il ajoutera que la CEDEAO ne va pas laisser le désordre s'installer au Mali. Le président ivoirien a demandé la démission rapide des 31 députés mal élus avant de conclure en demandant l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale et d'une cour constitutionnelle remembrée. Le président Ibeka a été très clair. Pour lui, ceux qui prennent la rue veulent imposer une transition et faire un coup d'État rampant pour mettre en cause la laïcité du Mali. Pour Ibeka, l'objectif des contestataires est d'installer un État islamique au Mali. De son côté, le président sénégalais Macky Sall dira que la CEDEAO est dans son rôle de sauvegarde des conflits et de la paix dans l'espace CEDEAO. Les présidents de la CEDEAO lors de cette session ont clairement parlé des sanctions ciblées contre ceux qui empêchent de l'intérieur le Mali d'être stable. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Sénégal, la Guinée et le Mali ont rendu hommage lundi à l'un des pionniers de la presse privée en Afrique de l'Ouest, conseiller influent de plusieurs chefs d'État, Babacar Touré, décédé dimanche à Dakar à l'âge de 69 ans. Babacar Touré est l'un des principaux fondateurs en 1985 du groupe de presse Sud Communication, qui a innové en créant au Sénégal un quotidien, une radio et une école de journalisme et communication et en développant un réseau de correspondants dans toute l'Afrique de l'Ouest, en France et aux États-Unis. Le président sénégalais Macky Sall a rendu hommage sur Twitter à un journaliste chevronné et pionnier de l'entreprise de presse et de formation des hommes de médias. Il aura été de tous les combats pour la liberté et la démocratie, a-t-il estimé. L'ancien chef d'État ivoirien Henri Konan Bédié, 86 ans, a été désigné candidat à la présidentielle du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, un parti d'opposition avec 89,7% des voix à l'issue d'une convention de ce parti. Le point avec Abdourahman Dia.
Les résultats des votes des délégués dimanche mettent en évidence mon élection avec un score de 99,7%. C'est un véritable plébiscite, a déclaré M. Bédié lors d'un point de presse à sa résidence d'Abidjan. Ce vote n'est pas une surprise puisqu'il était le seul candidat en lice. Des cadres plus jeunes comme l'homme d'affaires Jean-Louis Billon et Kouadio Konan-Bertin ont tenté sans succès de le challenger. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a tenu ce week-end ses conventions locales à travers le pays où plus de 9000 délégués ont voté. L'ancien chef d'État ivoirien âgé de 86 ans a rejeté les critiques sur son âge avancé qu'il estime au contraire être un atout. L'âge réunit l'expérience et aussi la compétence, a-t-il dit. Et un éventuel face-à-face avec son ex-allié Alassane Ouattara n'est pas exclu. Après le secrétaire exécutif du RHDP, Adama Big Togo, c'est au tour du ministre de la Défense et numéro 2 du gouvernement, Ahmed Bakayoko, de demander au président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat après le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui devait défendre les couleurs du RHDP. Le président Ouattara doit prendre part cette semaine à une réunion du bureau politique de son parti.
Au moins 6 civils ont été tués depuis le mois de mai par des groupes séparatistes dans les régions anglophones du Cameroun. L'ONG Human Rights Watch indique également que les exactions de l'armée se poursuivent. Les forces armées camerounaises ont attaqué un établissement de santé dans la région du Nord-Ouest et arrêté arbitrairement 7 membres du personnel d'un autre centre de santé dans le Sud-Ouest. L'ONG souligne que ces violences ont eu lieu alors que certains leaders séparatistes affirment avoir engagé des pourparlers de paix avec les autorités. Depuis janvier, au moins 285 civils ont été tués lors de 190 incidents environ dans les deux régions anglophones, selon Human Rights Watch. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a annoncé lundi l'interdiction de la vente d'alcool dans les restaurants et la prolongation d'un mois du couvre-feu nocturne dans son pays pour enrayer la propagation agressive du Covid-19. Monsieur Kenyatta a souligné la hausse du nombre de cas parmi les jeunes qui socialisent notamment dans des endroits servant de l'alcool et qui ensuite contaminent des membres plus âgés de leur famille. Au Soudan, plus de 60 agriculteurs ont été tués samedi lors d'une attaque par 500 hommes armés contre leur village au Darfour. Le gouvernement va envoyer des troupes pour enrayer la violence endémique entre nomades arabes et agriculteurs massali. Nathalie Barche.
L'attaque a eu lieu à Mastéri dans l'ouest du Darfour où plus de 60 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Plusieurs maisons et le marché local ont été pillés et brûlés. C'est le dernier incident d'une série d'attaques meurtrières la semaine dernière dans la région du Darfour. Au Darfour Sud, 20 agriculteurs ont été tués vendredi lorsqu'ils revenaient sur leur champ après 15 ans d'absence. Ils avaient été autorisés à reprendre leurs terres après un accord sous l'égide du gouvernement avec ceux qui les occupaient lors du conflit au Darfour. Les forces de sécurité vont être envoyées de Khartoum dans les régions où se produisent des troubles pour assurer la sécurité des habitants, a déclaré le ministre soudanais de l'Intérieur, El Trafi El Sdik. Le gouvernement a entamé en octobre 2019 des pourparlers pour un accord de paix avec des groupes rebelles en vue de mettre un terme au conflit dans les régions du Darfour, du Kordofan Sud et du Nil Bleu.
Des dizaines de personnes ont manifesté lundi devant l'ambassade du Portugal à Bissau pour protester contre ce qu'ils ont qualifié de crime raciste. Bruno Kandé, un Bissau-Guinéen de 39 ans, a été tué samedi dans la banlieue de Lisbonne dans des circonstances qui restent à préciser. La police portugaise indique qu'elle ne dispose pas d'éléments prouvant corroborer un crime raciste. L'assassin présumé a été placé en détention.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La quête d'un vaccin contre le Covid-19 avance à une vitesse inédite. C'est une compétition planétaire aux enjeux financiers énormes. Dans son dernier point daté du 24 juillet, l'OMS recense à travers le monde 25 candidats vaccins évalués dans des essais cliniques sur l'homme contre 11 à la mi-juin. Le point avec Nanit Talani.
Seuls 4 candidats vaccins sont au stade le plus avancé des essais cliniques. Le dernier en date est celui de la société américaine Moderna, qui a débuté lundi cette ultime phase durant laquelle il sera testé sur 30 000 volontaires. 2 projets chinois sont entrés dans cette phase 3 des essais cliniques depuis la mi-juillet. Celui du laboratoire Sinopharm, testé aux Émirats Arabes Unis, avec un objectif de 15 000 volontaires, et celui du laboratoire Sinovac, testé sur 9000 professionnels de santé au Brésil. Le quatrième projet est européen, mené par l'Université d'Oxford en coopération avec la société AstraZeneca. Il est testé au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud. Outre les essais déjà entamés, l'OMS comptabilise 139 projets de candidats vaccins en phase préclinique d'élaboration.
Les autorités de Washington ont annoncé lundi une quarantaine de 14 jours pour les personnes en provenance de 27 États américains considérés à haut risque en raison de la prévalence du nouveau coronavirus en leur sein. Sont notamment concernés la Floride, la Californie, le Texas et le Delaware, a précisé la mairie dans un communiqué. La Virginie et le Maryland sont exonérés. La Chine a pris possession lundi du consulat des États-Unis à Chengdu, dans le sud-ouest du pays, peu après le départ expéditif des derniers fonctionnaires américains. Ils ont eu 3 jours pour évacuer leur consulat, de même que Washington avait donné 3 jours la semaine dernière aux Chinois pour quitter le consulat de Chine à Houston. L'armée israélienne a indiqué lundi avoir déjoué une tentative d'infiltration d'une cellule terroriste à la frontière nord avec le Liban, après avoir rapporté des combats dans ce secteur. L'ONU a aussitôt appelé à la retenue. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco signée John Lyndon.
L'once d'or a atteint ce lundi la barre de 1930 $ sur le marché, battant ainsi le niveau historique de septembre 2001, où le métal jaune s'est négocié à 1921 $. L'or demeure la valeur refuge en cette période d'incertitude. Les opérateurs préfèrent placer leurs capitaux dans l'or qui génère également beaucoup de revenus à certains pays comme la RDC ou le Ghana. Le fonds d'investissement KKM va mettre 10 millions de dollars pour racheter les parts des Feronia dans les plantations et huiles du Congo. Feronia passe donc la main 11 ans après avoir repris la participation d'Unilever dans les plantations et huiles du Congo en 2009, pour lesquelles, et selon Gedapré, que le Canadien avait levé près de 200 millions de dollars, 4 fois plus que ses prévisions initiales. Le fonds d'investissement KKM installé à Maurice est dirigé par l'investisseur congolais Kala Mbinga et un ex-conseiller de Barack Obama. Le géant africain du ciment Dangote Cement a réalisé un bénéfice avant impôt d'un peu plus de 425 millions de dollars au premier semestre 2020, selon les résultats non audités du groupe publié sur la bourse nigériane. Selon Financial Afrique, pour les exercices clos le 30 juin, la société déclare un bénéfice de 1,2 milliard de dollars en hausse de 4,7% par rapport aux 406 millions de dollars un an plus tôt.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. En Tanzanie, le club populaire Young African Sport Club a annoncé le limogeage immédiat de son entraîneur belge Luc Emel. La formation tanzanienne lui reproche ses commentaires racistes envers les supporters de l'équipe qualifiée de singe ou chien par le technicien après le nul 1-1. Contre Mtibwa Sugar la semaine dernière, dans un enregistrement qui a circulé sur les réseaux sociaux après le match, Emel dit ceci, je cite, « Ses fans ne connaissent rien au football, on dirait des singes ou des chiens quand ils hurlent. » Selon la presse locale, le technicien de 60 ans s'est excusé pour ses propos, assurant au journal sportif Mwana Sporti qu'il n'était pas de bonne humeur, mais qu'il n'est pas raciste. Le championnat de Tanzanie s'est terminé dimanche avec Nyanga à la deuxième place derrière le champion Simba Sport Club. Et puis, le mondial de football 2022 acquis, cap sur les Jeux Olympiques de 2032, le Qatar a confirmé être candidat à l'organisation des JO de 2032. Conformément aux changements proposés en 2014, les pays intéressés soumettent une demande pour rejoindre le dialogue continu sur l'organisation des Jeux, ce que le Qatar a confirmé avoir fait dans une lettre adressée au Comité international olympique basé à Lausanne en Suisse. Il rejoint ici l'Inde, l'État australien du Queensland et Shanghai. Une éventuelle candidature commune de Séoul et Pyongyang est évoquée pour ces Jeux d'été de 2032. Les Jeux de 2020, reportés à 2021 en raison du nouveau coronavirus, ont été attribués au Japon qui connaît, comme le Qatar, des températures estivales torrides. Les températures estivales peuvent atteindre 50 degrés. Ici, en MLS, le New York City FC et le Sporting Kansas City se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue nord-américaine de football. New York City FC a battu Toronto 3-1 et sera opposé en quart au vainqueur du duel prévu demain entre les Portland Timbers et le FC Cincinnati. Le Sporting Kansas City a eu besoin de recourir au tir au but pour se défaire des Vancouver Whitecaps après un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Le club du Missouri rencontrera en quart celui de Philadelphie qui a battu samedi les New England Revolution 1-0. En basketball, les Boston Celtics ont dominé les Phoenix Suns 117-103, mettant ainsi derrière eux leur défaite inaugurale en préparation de la reprise NBA. Les Celtics reprendront la saison samedi prochain avec un match au sommet contre les Milwaukee Bucks, premier de la conférence Est avant l'interruption. De leur côté, les Thunders d'Oklahoma ont enchaîné en battant les Philadelphia Sixers 112-97. Les Sixers de Philadelphie ont dû se passer de leur star camerounaise Joel Embiid, touché au mollet droit vendredi contre Memphis. Victoire 90-83.
C'était les sports de Yacouba Ouedraou. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Eric Manela Kidza de retour avec vous dans cette édition du Monde aujourd'hui. Maintenant, les dossiers du jour. Cette semaine, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest rouvrent leurs frontières aériennes après plus de 5 mois de fermeture. C'est le cas par exemple du Mali ou du Burkina Faso, où le gouvernement a annoncé la reprise du trafic aérien à partir du 1er août. À Ouagadougou, les habitants sont partagés entre soulagement et crainte d'une propagation accélérée du nouveau coronavirus. Et réaction recueillie dans les rues de Ouagadougou par notre correspondant Kader Traoré.
La question, je pense que c'est en toute logique que le Burkina donc s'inscrit dans cet agenda pour ne pas rester en marge et suivre un peu cette dynamique au niveau de la CEDEAO qui va donc permettre donc de relancer l'économie au niveau des différents pays. Je pense que le gouvernement doit s'employer à maintenir les mesures sanitaires prises depuis mars, sinon même renforcer et faire en sorte que, en tout cas, les choses soient respectées à la lettre avec un dispositif en termes de ressources humaines bien solide et bien relevé.
Sommet ABL, c'est une chose à saluer. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et surtout pour des pays moins développés comme le nôtre, il nous faut beaucoup ouvrir les frontières pour permettre à notre économie de se relancer, permettre aussi à nos parents, à nos compatriotes qui ont été longtemps coupés du reste de leur famille, puissent regagner le bercail. Sur le plan sanitaire, il faudra que le gouvernement prenne toutes les précautions nécessaires qu'il faut, établir un protocole sanitaire très strict afin que nous puissions éviter des nouvelles contaminations. On ne voudrait pas que la seconde fois, on puisse revivre ce malheur.
L'ouverture des frontières, l'espace aérien, est d'une manière générale un grand dilemme. Car pour un pays dont l'économie était déjà touchée par des défis d'actualité, notamment sécuritaires, garder clos ses frontières pourrait davantage être asphyxiant. Toutefois, il me semble paradoxal d'envisager l'ouverture de l'espace aérien quand, à sa fermeture, on avait moins de cas qu'aujourd'hui. Sans oublier que c'est par l'aéroport que le virus a fait son entrée sur notre territoire. Je me dis que le gouvernement a bien évalué la situation qui prévaut, tant au niveau national qu'international, et pris toutes les mesures pour la protection de la vie de la nation. La Fondation Bill et Melinda Gates ont félicité le gouvernement pour sa gestion de la pandémie. Et tous les citoyens, je pense, en était très fier.
Fermer le pays comme ça avec le reste du monde va avoir d'importants impacts économiques sur nos entreprises. Il faut dire que nous sommes un pays importateur et ça veut dire qu'au niveau du flux de biens, il y a un souci. Et il appartient au gouvernement de mettre en place un mécanisme très bien solide pour pouvoir vraiment détecter les cas de coronavirus.
Propos recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Congo-Brazzaville, face à la propagation de la pandémie de Covid-19, les autorités qui avaient pourtant entamé un déconfinement annonce désormais des mesures correctives. L'État et le couvre-feu sont maintenus alors que la réouverture du trafic aérien international est projetée au 20 août prochain si la situation s'améliorait. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
Parmi les mesures que le gouvernement a retenues pour le renforcement de la lutte contre la COVID-19, il y a le maintien du couvre-feu qui commence désormais à 20h et non plus à partir de 22h. Les marchés n'ouvriront plus que 4 jours dans la semaine au lieu de 5. Thierry Mungala, le ministre de la Communication, fournit des explications.
Un relâchement général, tant de la part des populations que de l'ensemble des acteurs impliqués dans le combat contre cette redoutable pandémie. Ce constat oblige donc les pouvoirs publics à prendre des mesures correctives, valant reprise en main de l'ensemble de notre riposte nationale contre la pandémie.
Il y a un mois, lorsque le gouvernement annonçait le deuxième palier de confinement, le pays ne comptait que quelques 880 cas. Aujourd'hui, ce nombre a plus que triplé, dépassant les 3100 cas. Selon le rapport de la Task Force de gestion de cette pandémie, la croissance économique est par terre, moins de 40%. Elle recommande que le gouvernement trouve rapidement de l'argent pour payer la dette intérieure et soutenir les petites entreprises en faillite. Analysant cette situation, l'économiste Hassan Bouzir met en cause l'effet des mesures prises par les autorités.
Ces mesures vont de plus en plus asphyxier l'économie et engendrer des dégâts difficiles à surmonter sur le plan microéconomique. Les entreprises vont continuer à licencier et à fermer les portes, le secteur informel va craquer et la consommation va plonger au point où les petits commerçants risquent de tomber tous en faillite. Il faut donc apprendre à vivre avec la COVID-19. Pour cela, ne pas fermer les marchés domaniaux, mais procéder à leur désinfection chaque nuit par exemple.
Malgré leur peur face à la COVID-19, plusieurs Brazzavillois réagissent au maintien du couvre-feu et à la fermeture des marchés domaniaux.
3 jours sans qu'il y ait marché me dérangera un petit peu parce qu'il y a des aliments que je dois acheter de manière quotidienne.
Quand même, on peut les réduire en 3 jours, 2 jours, mais si les marchés ne sont pas désinfectés et si la distanciation physique n'est pas respectée, tout cela sera vain.
Les gens ont pris déjà une certaine habitude autour de 22h. Donc là, ramener ça à 20h, il doit falloir que les gens s'habituent encore à ce rythme-là.
Pourquoi ne pas faire des reportages à visage découvert des personnes qui en ont été atteintes ou qui le sont encore? Cela peut-être permettrait que les populations prennent davantage conscience de la situation.
Au niveau des stocks des entreprises aussi, il y aura nécessairement un coût. Mais malheureusement, c'est le passage obligé. La santé n'a pas de prix.
Ces nouvelles mesures prennent effet à partir du 30 juillet et l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été prorogé de 20 jours. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, en Afrique, comment relancer l'économie durement touchée par la pandémie de COVID-19? Les dirigeants de l'Union européenne ont récemment conclu un accord sur un plan de relance après de longues et difficiles négociations. Quelques 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider l'Europe à redynamiser son économie post-Covid. Mais en Afrique, on note une absence de réponse coordonnée. Qu'est-ce qui explique ce manque de réponse à l'échelle régionale ou continentale? L'annulation de la dette est-elle la solution? Rendez-vous jeudi 30 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Sénégal, c'est devenu la tradition. Chaque année, les populations de la banlieue dakaroise souffrent des méfaits de l'hivernage. Cette semaine, avec les premières pluies, plusieurs familles sont une nouvelle fois sous les eaux. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Une route impraticable, des maisons sous les eaux, un plan d'assainissement inexistant. Nous sommes à Warouaï, un quartier oublié dans la lointaine banlieue dakaroise. Ici, les maux sont nombreux, surtout en cette période d'hivernage où les familles sont plus que jamais vulnérables à cause des inondations. Astoutiam, l'une des premières habitantes de Warouaï, raconte le calvaire qu'ils vivent à chaque saison des pluies.
On est très fatigués et dès que le ciel devient orageux, on meurt d'inquiétude parce qu'on pense automatiquement aux inondations. Et nos enfants sont très fatigués quand la pluie tombe car on perd tous nos bagages. On ne ressemble plus à des personnes normales. On dirait qu'on n'est même pas des citoyens. On a besoin d'aide. Les eaux stagnantes sont vraiment dangereuses et nos enfants traînent des maladies à cause de cela. Et le comble dans tout ça, c'est qu'on ne voit plus personne pour nous aider. Les autorités sont fantomatiques.
Les familles ne sont pas les seules à subir les affres des inondations. Dans les édifices publics et les lieux de commerce de la banlieue, usagers et professionnels se disent laissés à eux-mêmes. Mohamed Si, vendeur au marché de Pékin, souligne que cette situation est un risque sanitaire supplémentaire au moment où leurs enfants doivent reprendre les cours en pleine pandémie de la COVID-19.
Il y a beaucoup de zones inondées qui deviennent de surcroît des impasses car personne ne peut y circuler. Il y a les marchés qui profitent de la pluie pour ouvrir leurs fosses et évacuer les eaux usées. Tout cela, combiné au coronavirus, rend la situation critique. L'eau est partout dans les rues. Comme vous le voyez, c'est très difficile de circuler même pour les élèves qui doivent rejoindre les collèges. Le collège Pékin Est, par exemple, est inaccessible à cause des eaux de pluie. Vous comprenez bien que dans ce cadre de figure, aucune mesure ne peut être respectée.
Comment ça accomplir?
Malgré leurs nombreuses annonces, les autorités sont désavouées par les populations. Pape Cissé affirme que les politiques ne joignent pas souvent l'acte à la parole afin de régler définitivement le problème des inondations.
La situation ici est très difficile et le plus inquiétant, c'est qu'on ne voit aucune autorité essayer de nous soutenir. Toutes les rues sont inondées alors que le ciel vient juste d'ouvrir ses vannes. La situation est plus que critique. Nous lançons un appel à tous les bienfaiteurs pour nous épauler, ne serait-ce que pour évacuer les eaux qui stagnent encore, car on est très fatigué et on ne peut pas se fier à la promesse des autorités qui ne font que nous berner.
À Dakar et un peu partout au Sénégal, les populations souffrent toujours des inondations malgré les dizaines de milliards engloutis dans des plans pour lutter contre cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que le directeur de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, a invité les plus hautes autorités à revoir le code de l'assainissement, le code de l'environnement et le code de l'urbanisme pour arriver à trouver des solutions durables sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. Lionel Rudanira Gahima, Joselle Morissin, Georges et Léonard Sagnot et Michel Joseph. À la présentation, c'était Eric Manirakiz. Merci d'avoir suivi le Monde Aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont fiers de leur partenariat de longue date avec les pays africains, fondé sur des intérêts mutuels, des valeurs démocratiques partagées et un engagement de plusieurs décennies à améliorer la vie des populations africaines. Une grande partie de notre coopération concerne l'acheminement de l'aide. En partenariat avec plus de 120 pays, le gouvernement américain travaille pour aider à vaincre la pandémie de COVID-19. L'USAID est en tête de cet effort, en tandem avec le département d'État, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le département de la défense et d'autres, dans le cadre d'une réponse pour soutenir les systèmes de santé, l'aide humanitaire, la sécurité et les efforts de stabilisation. Il est important de noter que cette assistance est alignée sur les trois objectifs clés de la stratégie africaine du président, a déclaré Chris Maloney, administrateur adjoint de l'USAID pour l'Afrique. Le premier objectif étant de faire progresser les relations commerciales avec les principaux États africains pour accroître la prospérité américaine et africaine. Le deuxième est de protéger les États-Unis contre les menaces transfrontalières en matière de santé et de sécurité. Le troisième est de soutenir les États africains dans leur progression vers la stabilité, la gouvernance à l'écoute des citoyens et aussi ce que nous appelons la volonté d'autosuffisance ici à l'USAID. Il est important de signaler que, pour le moment, nous nous trouvons également confrontés au COVID-19, a-t-il déclaré. Et je suis ravi d'annoncer que nous avons engagé près de 350 millions de dollars pour aider les pays d'Afrique subsaharienne à répondre à la pandémie de COVID-19. Les dizaines de milliards de dollars que les États-Unis ont investis au cours des dernières décennies, en particulier par le biais du PEPFAR et de l'initiative présidentielle contre le paludisme, ont créé pour nous des relations de confiance incroyables à travers l'Afrique, a déclaré l'administrateur adjoint Maloney. Une chose qui, à mon avis, a été passionnante, par exemple, en Afrique du Sud, nous avons eu la possibilité de mobiliser environ 20 000 agents de santé travaillant traditionnellement sur la plateforme PEPFAR, de sorte que la plateforme anti-SIDA se tourne maintenant à travailler sur le Covid. Cette capacité à tirer parti de ces plateformes que nous avons pu développer a été très, très importante dans notre réponse, a déclaré l'administrateur adjoint Maloney. Je suis convaincu que nos relations et les expériences partagées avec nos partenaires africains au cours des dernières décennies continueront de nous aider à faire face à la fois à la crise actuelle du Covid-19 et aux problèmes de développement au sens plus large. Fin des citations.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington.